Nous sommes au 33e festival de Blois, BD Boom, avec Julien Carrette pour le premier tome de Bourreau, sorti aux éditions Delcourt. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça s'est passé comment, votre séance de dédicace aujourd'hui à BD Boom?
Bien, très très bien, beaucoup de monde, déjà dès ce matin. Non, je suis très content, c'est très très bien passé.
Les gens ont demandé des choses spéciales ou est-ce que vous avez imposé vos dédicaces?
Je suis un vrai tyran, j'impose. Non, 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 la majeure partie du temps, et en fait, enfin, je leur demande ce qu'ils veulent, et puis ils me disent, bah non, ce que vous voulez vous, bon, pas trop vous demander toujours la même chose, etc., etc., etc. Donc, non, 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 en fait, c'est moi qui leur propose aussi, des fois, de changer un petit peu, de pas avoir peur de demander telle ou telle chose. La seule chose que j'interdis, entre guillemets, c'est de faire trop de détails quand il y a trop de monde. Sinon, après, c'est plus possible, on s'en sort pas, quoi. Puis on rentre dans de l'illustration, on n'est plus dans une dédicace, quoi.
Comment est né ce projet, ou plus exactement, comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet?
Comment est né ce projet? Il faudrait voir ça avec Mathieu Gabella, qui est bon, le scénariste de la série, et qui est à l'initiative de ce projet avec David Chauvel, donc directeur de collection. Ce qu'il voulait principalement, c'était recréer un super-héros, mais au Moyen-Âge. Donc un truc à la française, mais pas franchouillard. Comment moi, je suis arrivé sur le projet? Je suis pas le premier dessinateur à avoir travaillé dessus, en fait. Il y avait déjà quelqu'un avant moi qui a fini, au bout de peut-être une petite dizaine de pages, par jeter l'éponge, parce qu'en fait on lui a fait une autre proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Donc il est parti et ils sont repartis à la recherche d'un dessinateur et c'est tombé sur moi, et avec beaucoup de joie, parce qu'en fait je suis très content de travailler sur ce projet actuellement.
Même si je ne connais pas l'autre dessinateur, j'ai envie de dire tant mieux pour nous.
Non, non, mais tout va bien pour lui, hein. C'est vraiment que je ne citerai pas son nom, parce que voilà, mais bon, il y avait moi je le remercie encore, hein, même voilà.
Qu'est-ce qui vous a séduit, le personnage, l'environnement urbain, la période?
Tout le personnage, qui avait donc déjà son design et comment dire, ses caractéristiques qui étaient déjà définies. Donc c'était très confortable pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice et de rentrer dans cet univers. Et puis voilà, hein, clairement un espèce de Batman dans un Paris médiéval, un espèce de Gotham City transposé au Moyen-Âge, avec des maisons très très hautes, tout en verticalité. Donc non, l'univers, tout ça m'a séduit. Puis c'était aussi quelque chose qui me permettait de sortir de ce que j'avais fait précédemment, donc une série plutôt science-fiction dans une ligne un peu plus claire, bon, presque manga, on va dire. Et voilà, vraiment, c'est tous les ingrédients qui m'ont réellement séduit dans cette histoire, quoi.
Du coup, votre travail en tant que dessinateur a été un peu modifié par cette histoire-là, ou vous travaillez toujours de la même façon?
Non, non, je travaille de la même façon. J'ai travaillé forcément différemment de ma série précédente. Là-dessus, il y a aussi une envie personnelle d'aller sur des choses que je faisais pas forcément. Beaucoup plus de noir sur mes pages, beaucoup plus, enfin, un ancrage plus dur, plus lourd, plus, comment dire, je vais pas dire plus graisseux, mais plus charbonneux. Mais tant mieux, enfin, c'était vraiment une envie aussi de ma part d'aller vers ça. La seule chose que je voulais absolument faire, c'était de travailler avec des originaux, donc du papier, des feutres, de l'encre, du pinceau, ce que je faisais pas sur Nomade, parce que j'ai travaillé Nomade principalement en numérique. Je pense qu'au départ, ils s'attendaient à ce que je travaille numériquement, pensant que ça ferait gagner du temps. Bon, déjà, moi, personnellement, ça ne me fait pas gagner du temps, c'est la même chose. Et en termes de travail graphique, j'avais envie de revenir à du traditionnel, en fait.
Vous travaillez avec énormément de monde, puisque il y a quelqu'un pour les décors, etc. Vous travaillez quand même case par case et page par page, ou est-ce que vous pouvez le faire un peu dans le désordre?
Non, non, je le travaille au fur et à mesure dans l'ordre. Enfin, on est énormément sur le projet, en fait. Finalement, pas tant que ça. Principalement, donc Virginie Augustin qui était au storyboard, Jérôme Benoît au décor et moi au dessin global, enfin des personnages et ainsi de l'ancrage final des planches. Je pouvais travailler mes pages sans décor à partir du storyboard. Par contre, il fallait faire attention aussi que tout soit cohérent, c'est-à-dire que le décor, quand il arrive, il est très fidèle au storyboard de Virginie, du moins sur le tome 1, et là sur le tome 2, ça va être la même chose. Moi, j'ai travaillé page à page. J'ai pas pu sauter en fait de la fin, revenir au début, etc. Enfin, je sais pas comment font d'autres dessinateurs. Moi, c'est un truc que je peux pas faire parce que sinon, on va perdre. Il y a des détails que je pourrais perdre en cours de route, de la cohérence entre les pages, même de la. Faut que tout soit raccord, comme au cinéma en fait. Hein. Si on passe d'une scène à l'autre, il faut qu'on sache exactement où se trouvent les éléments, etc. Donc, non, non, j'ai dû faire quand même case à case, page à page, au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a une page dont vous êtes particulièrement fier?
Ah non.
Dites-nous tout.
Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, j'aime bien la page 1, qui est, bon, même si principalement c'est le travail de Jérôme qui a amené à ça, mais le fait d'ancrer derrière ça, et redessiner certains détails, ça a été assez chouette. Enfin, faudrait voir les originaux pour ça. C'est vrai que l'album, pour ça, on se rend pas compte vraiment du travail complet de ce que ça peut donner. Bon, cette page-là, on est à la page 7 de l'album, hein, pour ceux qui vont suivre en même temps. Donc cette vue sur Notre-Dame avec les immeubles devant, donc en pleine nuit, très charbonneux. On découvre le bourreau pour la première fois, me semble-t-il, dans son costume. Toute la scène qui suit aussi me plaît énormément. Enfin, toutes les pages où vraiment l'ambiance très très noire était là, voilà, ces pages-là, elles sont vraiment chouettes à faire, quoi. La séquence, oui, de combat entre le fameux barbu, dont tout le monde me parle tout le temps, et puis le bourreau, qui était assez sympa à faire. Parce que contrairement à ce qu'on pense, même si le storyboard est très précis, et les décors aussi, je me suis octroyé aussi quelques libertés. C'est-à-dire que, autant le storyboard, les personnages sont dans une certaine position, des fois j'ai pu, moi, modifier quelque chose, apporter ma pierre à l'édifice, parce que je le sentais mieux comme ça. Toujours avec la validation de Mathieu et des autres, évidemment, mais... Non, 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 globalement, il y a plein de pages que j'aime beaucoup, moi, en fait. En fait, je fais de l'autosatisfaction complète de son bouquin.
Après, est-ce que vous travaillez en musique pour vous donner une sorte d'ambiance? Parce qu'il y a une vraie atmosphère derrière le bourreau.
Ouais, mais non, pas toujours, en fait. Quand je travaille en atelier, on écoute pas mal de musique comme ça, donc pas mal de musique de film, souvent, pour se mettre un peu dans cette ambiance-là. Moi, j'aime bien écouter, enfin, j'aime bien regarder des séries et j'aime bien écouter des podcasts ou alors écouter des émissions sur YouTube tout en travaillant, en fait. Alors, regarder des séries, je les écoute plus que je ne les regarde, donc fatalement en VF, excusez-moi, messieurs, dames. Je sais que je vais me faire trucider, mais c'est comme ça. Mais c'est les seuls moments où je peux vraiment m'octroyer cette récréation-là. Donc, tout en travaillant, ça me permet de me concentrer. Ça peut paraître très très bizarre. Mais ouais, j'aime bien faire ça.
Est-ce que vous avez modifié quelque chose sur le bourreau en tant que tel, sur sa tenue ou sur ses armes ou des choses comme ça?
Non, 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 on n'a rien touché. Tous les designs étaient déjà tout était déjà fait, tout était prêt avant que je démarre. J'ai suggéré des choses qui m'ont été refusées. Donc, mais bon, sans rancune, évidemment, je fais sans aucun problème, puisqu'il avait déjà une dégaine très très sympathique, notre bourreau. Et non, non, par contre, je me le suis approprié dans sa façon de. Dans sa carrure, dans sa façon de bouger, dans sa façon d'être, je veux dire, animé dans les pages, si on peut parler d'animation, mais je veux dire, dans la narration, voilà, je le fais bouger, c'est moi qui le fais vivre, quoi.
Et est-ce qu'il y a une signification derrière chaque chose qu'on voit? Je pense aux cicatrices, je pense à la forme du masque, etc. Est-ce que c'est des choses qui ont été discutées, justement, avec Mathieu Gabella? Est-ce que c'est des choses dont on peut nous parler, ou est-ce que ça doit rester mystérieux et qu'on découvrira après à la lecture de la fin de cette trilogie?
Son masque, oui, il y a une signification, mais il y a déjà un début d'explication dans le tome 1 de toute façon, puisqu'en fait c'est enfant, en fonction de sa formation, on le voit, il doit le faire lui-même, son masque, en fait. C'est-à-dire que son don va apparaître de son anonymat complet auprès de ses proies, donc ça vient de là, en fait. Maintenant, sur ses cicatrices, non, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de signification particulière. C'est-à-dire qu'avant qu'il obtienne son don, forcément, il a pris quelques coups, et ça se retranscrit sur son corps à ce moment-là. Mais ça n'a pas de signification par rapport à la trame complète de l'histoire, quoi. Par contre, son masque, oui.
Parce qu'on a l'habitude, avec Mathieu Gabella, d'avoir plein de niveaux de lecture différents, donc on en arrive presque à se méfier, en fait, quand on a un dessin après sous les yeux.
Sans commentaire.
Est-ce que vous connaissez, vous, le fin mot de l'histoire? Vous nous dites juste oui ou non?
Oui.
Vous travaillez pas, vous, sur les décors. Pour autant, vous nous disiez que vous retouchiez quelques petites choses. Est-ce que vous avez utilisé beaucoup de documentation pour être fidèle justement sur cette partie-là, ou rien que sur les tenues pour pas faire d'anachronisme?
Sur les tenues, ouais, j'ai essayé d'être à peu près cohérent sur la l'époque, etc. Maintenant, j'ai pas une rigueur non plus absolue, hein. Je fais en sorte d'être cohérent. Maintenant, on n'est pas sur une série historique, on est même pas totalement fixé sur la période. On est vraiment fin Moyen Âge puisque Notre-Dame est déjà construite, enfin, elle est achevée. On n'est pas tout à fait début Renaissance, mais il y a quelques éléments de costumes qui sont très Renaissance dans leur style, notamment quand on est dans la cour de Paris, qu'on voit les différents notables qui sont présents. Il y a beaucoup plus d'influence Renaissance que Moyen Âge. Après, Moyen Âge est tellement, enfin, c'est tellement vaste comme période que trouver vraiment la documentation précise de l'année précise de là où se passe la fin d'où se passe l'action, c'est compliqué. J'ai de la documentation, j'arrive aussi à en faire un peu ma tambouille perso à un moment donné, quoi. Le tout, c'était surtout de pas tomber dans de l'héroïque fantasy, parce que ça n'est pas, en fait. On est dans un médiéval fantastique, mais qui pourrait très bien être historique si ça avait été le chemin qu'on avait voulu prendre, quoi.
Il se passe des choses bizarres, mais il n'y aura pas de gobelins, il n'y aura pas de dragons, pas de tout ça.
Non, 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 non. Ça, c'est pas un spoiler. C'est pas un spoiler. Ça, c'est non, non. Pas de gobelins, pas de dragons, pas de choses comme ça. On a déjà un bourreau qui a des pouvoirs. Qui a des pouvoirs. Je vais pas dire magique parce que c'est pas magique. Il a des pouvoirs et c'est déjà beaucoup. Voilà.
Un rythme de parution déjà fixé.
Tome 2 qui devrait sortir pour le mois de mars. Un tome 3 qui, pour l'instant, je ne peux pas vraiment prévu. Enfin, je peux pas vraiment dire. Il est prévu pour fin 2017, mais on l'a pas encore démarré graphiquement. Je termine tout juste le tome 2 là, donc. Je voudrais pas m'avancer de trop. Comme ce sera le dernier, de toute façon, l'éditeur a un objectif pour fin 2017. Moi, j'ai un objectif. Il faudrait qu'il sorte vraiment au grand maximum un an après, quoi. Pour un rythme de parution un par an et une date à ne pas dépasser, quoi.
Est-ce que les trois couvertures seront réalisées systématiquement par Jean Bastide?
Par Jean Bastide. Non, le tome 1 a été réalisé par Jean, mais pas le tome 2 parce qu'il est pas, il est pas dis enfin, il n'était pas disponible pour le faire. Moi-même, j'ai voulu m'y coller, mais non. Donc, non, non, c'est réalisé par le studio Nautilus qui chapeaute le projet graphiquement. Et voilà, sur les trois tomes, ce sera ça. Après, s'il y a un tome 4, la question reste en suspens, mais pour l'instant, sur ces trois tomes-là, oui, ce sera eux.
Avec à chaque fois un personnage en premier plan?
Oui, on reste à peu près sur le même concept à chaque fois. Ouais.
Du coup, c'est prévu comme une trilogie. Vous disiez, s'il y a un tome 4, c'est que il y aurait possibilité d'une extension en fait dans le même monde en utilisant ces types de personnages. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toutes les données. De repartir sur un autre cycle.
Bah, nous, avec Mathieu, on aimerait bien. C'est prévu en trois tomes. On a donc l'arc principal de notre histoire qui se terminera au tome 3. Mais tout est possible, c'est-à-dire qu'on va pas clore l'univers au tome 3. Donc on a tout à fait la possibilité, c'est ce qu'avait prévu plus ou moins Mathieu au départ, de cette possibilité-là d'aller au-delà des trois tomes. Mais officiellement, ce qui est prévu, c'est trois. Et ils seront là tous les trois.
On va partir du principe que vous êtes le dernier homme sur Terre et que vous allez finir vos jours avec un des cinq robots que je vais vous citer. Vous pouvez finir vos jours avec Baymax, Wall-E, C3PO, le T800 ou Astro. Vous voudriez finir avec qui?
Mais qui aurait envie de finir avec le T800?
Plein de gens.
Mais pourquoi? Ah non, Baymax.
Ouais.
Ah ouais, Baymax, ça me ferait délirer. Ah ouais, non, mais au moins on pourrait avoir un peu de fun, ça pourrait être rigolo. Ouais. Non, parce que bon, autant bon Astro, non, il pourrait être vite chiant, je pense. Non, non, et puis comment il s'appelle, Wally, bon, la conversation est un peu limitée. Et le T800, bah, à moins d'avoir faire en sorte qu'il essaie pas de vous buter, bon, non, Baymax, c'est bien. C'est bien, Baymax. Avec ou sans armure?
Au choix.
Avec armure. Ouais, c'est classe. Non, mais ça fait un lit comme ça en même temps, parce qu'il va tout rond. Non, non, ouais, Baymax.
Merci.
Merci à vous.